Elle est directrice du regroupement pour la trisomie 21. J'accueille aujourd'hui Geneviève Labrecq. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, notre sujet est le suivant, les efforts de sensibilisation des organismes et les ressources accessibles face à l'annonce de diagnostics que font les médecins. Je vous avouerai que le sujet m'a un peu étonnée, mais pas surprise, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que je me suis dit, mais enfin, il ne faut quand même pas leur apprendre à annoncer la nouvelle aux parents. Puis l'autre côté me disait, ben oui, certainement.
C'est bien ça. Nous, ce que les parents nous signalent souvent, il faut dire qu'en tant qu'organisme communautaire, on n'a pas toujours les histoires heureuses. On a souvent les histoires où ça se passe pas bien. Et on entend encore des histoires d'horreur face à l'annonce du diagnostic. Par exemple, fait au téléphone, quand un des deux parents est parti chercher un repas à la cafétéria, les infirmières se dépêchent de le dire à la mère. Donc, il n'y a pas de bonne méthode, mais il y a des méthodes à éviter, c'est certain.
Mais il doit même y en avoir des bonnes aussi, quand même.
Effectivement. En fait, il y a une ligne de conduite ministère qui est établie, les médecins doivent essayer de faire le plus possible, mais on s'entend que des conditions gagnantes ne sont pas toujours réunies et que des fois, il y a des médecins qui sont moins à l'aise que d'autres dans les annonces de diagnostic, même si dans leur métier, ça fait partie de leur réalité.
D'ailleurs, vous savez, oui. Maintenant, excusez-moi, Geneviève, de vous interrompre, mais je me posais d'ailleurs la question, c'est que le métier de médecin, à part peut-être s'il est chercheur et s'il est toujours dans son laboratoire à faire des recherches, mais le métier de médecin implique, on s'entend, un travail de communication avec le public. Oui. Est-ce que ça leur est enseigné à l'université?
Il y a un cours à l'Université de Montréal qui s'appelle l'éthique médicale qui leur enseigne. Mais c'est comme dans tout, il y a des personnes qui l'ont plus naturellement que d'autres. Il y a des personnes qui ont des capacités sociales plus que d'autres. Et dans ce cadre de ce cours-là, c'est enseigné par une médecin en génétique. Elle a approché des organismes communautaires, dont le regroupement pour la trisomie 21, pour venir parler aux futurs médecins de l'annonce du diagnostic et de l'impact de l'annonce a sur les parents. Par exemple, pour nous, dans le cas de la trisomie 21, on l'apprend à la naissance ou 2-3 jours après la naissance et parfois même en cours de grossesse. Donc, il y a un impact sur l'annonce du diagnostic. Souvent, le couple doit faire le deuil de l'enfant parfait et il y a des décisions à prendre et des réflexions, surtout en cours de grossesse. Et ce que les médecins font, vont souvent lire toutes les problématiques, par exemple, en trisomie 21, là, ça peut passer là, des pieds plats aux problèmes cardiaques. Ils vont lire toute la liste des choses possibles, imaginables que l'enfant peut avoir. Mais ils ne vont pas donner l'autre côté de la médaille nécessairement. De dire, il y a des parents qui en ont des enfants, puis ça se passe bien. Si vous voulez, on va vous mettre en communication avec eux pour avoir les deux côtés, d'avoir un choix juste et éclairé.
Oui. Et dans ces cas-là, donc, j'imagine que votre rôle, ainsi d'ailleurs que le rôle du travailleur social et ou de la psychologue à l'hôpital, est essentiel, quoi.
Est important parce que souvent, les parents, quand ils apprennent ça, ils voient tout de suite là, les problématiques et il y a un stress important. Surtout en cours de grossesse, il y a des familles qui vont faire des interruptions de grossesse, mais il y a des effets où ça, une interruption de grossesse, ça laisse des traces, ça laisse des marques.
Surtout
ça prend un soutien.
Oui, bien sûr. Oh là là. Je suis convaincue que bon, c'est une pilule qui est tellement difficile à avaler. J'ai rarement entendu après des gens qui ont des enfants trisomiques. J'ai rarement entendu ces gens-là après se plaindre. C'est clair que c'est inconditionnel, pareil, après. D'ailleurs, je vous entendais, je vous avais eu une très belle expression tout à l'heure, j'imagine que vous l'utilisez souvent, lorsqu'ils comprennent qu'ils n'auront pas un enfant parfait.
Oui, exactement. En fait, c'est le deuil de l'enfant parfait.
C'est le deuil,
Mais il y a plein d'autres handicaps aussi où c'est le deuil de l'enfant parfait qu'on doit faire. Mais ce n'est pas la fin en soi. Et les médecins se protègent en disant tout le côté négatif. Et nous, quand on a des familles qui nous appellent en cours de grossesse ou qui vont sur notre site Internet, qui nous envoient des courriels, souvent, ils veulent savoir, est-ce que je peux avoir d'autres enfants? Est-ce que c'est la fin de ma carrière? Est-ce que c'est la fin? Ils veulent juste avoir l'autre côté pour avoir un choix juste. Et souvent, il y a des familles que, même après toutes les recherches, vont décider de faire une interruption de grossesse. Ça arrive. Mais il y en a d'autres qui vont dire, je vais prendre l'enfant. Et il y a des familles, vous savez, que ça fait 5-6 ans qu'ils essaient d'avoir un enfant. Puis là, ils apprennent qu'ils ont un enfant qui a une trisomie 21. C'est des choix, des discussions très, très difficiles à vivre.
Et à ce moment-là, ce sont des discussions que vous avez avec eux, que vous avez, vous les aidez, vous les soutenez.
Nous, en tant qu'organisme, et je sais qu'il y a d'autres organismes aussi qui le font, notamment la PETEL à la Naudière, ce sont des conversations qu'on va avoir avec les familles. S'ils veulent se déplacer, on les accueille aussi, mais c'est tout à fait anonyme. On va pas faire de suivi, on va pas leur donner leur nom, on va pas leur demander nom, numéro de téléphone, courriel.
Oh là là, oui.
On va essayer de faire ça le plus juste possible, sans prendre de position, parce que d'une façon ou d'une autre, ça reste un choix de couple à la fin,
oui,
ou un choix de la femme. Donc, on veut qu'ils puissent avoir les deux côtés le plus juste possible.
Et ne pas poser de jugement.
Oh, pas du tout.
Quoi qu'il arrive.
C'est pas notre rôle.
Non,
et
c'est
ça. Je crois que les travailleurs sociaux et les psychologues dans les centres hospitaliers, on manque un peu de ressources parce que ces familles-là en ont besoin.
Oui.
Souvent, ils vont voir le médecin, ils vont être dirigés par la suite à la maison pendant 2-3 jours, puis là, ils sont tout seuls, ils font leurs propres recherches. C'est pas des discussions faciles.
Non.
Et quand, en plus, par exemple, s'ils commencent à en parler à la famille élargie, les amis, là, les valeurs de tout le monde embarquent là-dedans. Et c'est pas évident. Je dirais que c'est pas des situations évidentes.
C'est clair. Écoutez, Geneviève, j'aurais pu parler encore avec vous très longtemps. Geneviève Labrec, directrice du regroupement pour la trisomie 21. Ce que je retiens de cette discussion, peut-être pour des gens qui nous écoutent, c'est que s'il vous arrivait ce dont nous parlons en ce moment, ne voyez pas dans le regroupement pour la trisomie 21 des gens qui vont à tout prix vous dire « gardez-le, oui, vous allez voir, c'est fantastique, on va vous aider ».
Hein? Je vous dirais que dans chacune des situations, il n'y a rien de tout noir et de tout rose.
Mais non, exactement.
Il faut voir les deux côtés de la médaille.
Exactement. Geneviève Labrec, je vous remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de parler avec vous.
Pareillement.
Alors, on va se retrouver sur nos ondes d'ici quelques semaines, c'est sûr.
Parfait. Bonne fin de journée.
Au revoir. Merci.
Au revoir.